On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
Mon cher Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ça? Le retour de l'idée de partition, c'est un texte dans le Gazette. Alors, le Canadian Party of Québec qui organise un événement jeudi pour étudier la faisabilité de séparer Montréal du reste du Québec advenant l'indépendance.
Ben, c'est pas nouveau, hein, si je peux me permettre. Cette idée traîne dans le débat public depuis un bon moment. Moi, j'avais écrit en 2008, si je me trompe pas, un papier qui avait pour titre « La bruxellisation de Montréal », où je disais « Montréal se différenciait sociologiquement, culturellement, démographiquement, tellement du reste du Québec, que s'il y avait un prochain référendum, c'est pas juste le West Island qui voudrait faire la partition, c'est l'ensemble de l'île de Montréal qui réclamerait un statut de cité-État ». On n'est pas rendu là, évidemment, mais la tendance lourde est là. Deuxièmement, rappelle-toi le débat sur la loi 21, puis avant ça, la Charte des valeurs surtout. Montréal réclamait une forme de statut d'exception pour se dérober à la Charte des valeurs en disant « on ne veut pas qu'elle s'applique à nous ». Rappelle-toi les interventions nombreuses de Balarama Holness, hein, le nouveau Howard Galganov ben oui. des temps présents. Balarama Holness qui plaidait, lui, pour une séparation de Montréal, une partition de Montréal du reste du Québec. Donc là, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Puis si tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est une idée qui revient très souvent de gens qui expliquent qu'ils n'en peuvent plus de vivre avec les Québécois francophones, qu'on est trop, qu'on est lourd, qu'on est pesant, puis il faut délivrer Montréal du cadre pesant du Québec français. Bon, tout ça, on le sait. Là, c'est une étape de plus qui est franchie. Je ne suis pas surpris parce que moi, je crois que la démographie fait l'histoire. Et si t'as une ville de Montréal qui se différencie de plus en plus, eh ben la tentation, puis quand on sait par ailleurs, j'ajoute une chose, que dans l'histoire de l'Empire britannique, et de ce point de vue, elle se poursuit même si elle ne porte plus ce nom ici, les Britanniques ne quittent jamais un territoire sans le fractionner ou le, d'une manière ou de l'autre, chercher à conserver leur possession du moment. C'est l'histoire de l'indépendance de l'Irlande, où le Nord reste finalement, parce que les colons britanniques, c'est plus compliqué que ça, mais disent, on veut pas vivre sous les Irlandais, donc fait la partition. Et là, donc, je suis pas surpris que la tentation partitionniste revienne et qu'on nous dise, ben, nous, on ne veut pas se soumettre à la majorité. Enfin, on veut pas appartenir au Québec. Il y a un problème là-dedans, cela dit, c'est que si la partition se fait, en fait, imaginons leur scénario, est-ce qu'ils ont le droit de vote au référendum? Parce que s'ils ont le droit de vote au référendum, ils sont engagés par le résultat du référendum. Si on réussit à avoir 51,3% pour le oui, malgré le vote massif des anglophones ou des nouveaux partitionnistes à Montréal contre l'indépendance, est-ce qu'ils disent « Ah ben on a perdu, donc je joue plus, et puis je me retire du jeu après avoir perdu ». Le deal au cœur du référendum au Québec, parce que sinon on aurait passé par l'élection référendaire, hein. Le deal, c'est qu'il faut avoir 61, 62, maintenant c'est 65, 66% des francophones pour faire l'indépendance. Mais en échange, quand on a 50 plus 1 dans l'ensemble de la population, eh bien tout le monde embarque là-dedans. De l'autre côté, quand on a 60% des francophones comme on a eu en 95, mais le vote massif des anglophones et d'une partie très importante de l'immigration qui a voté avec eux, ben ça a permis de faire une forme de bloc qui avait un droit de veto sur l'avenir du Québec. Bon, donc là, il y a un deal démocratique. Si on nous explique que la démocratie s'applique plus, il faut nous le dire. Puis s'ils nous disent on veut tellement pas participer à l'histoire du Québec qu'on exige la partition avant même le référendum, eh ben là, ça veut dire quoi? Donc, on fait le référendum à l'extérieur de l'île de Montréal. Donc, à un moment donné, c'est le droit de succession d'État, c'est peut-être assez simple. Quand un pays devient indépendant, il part avec son territoire. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument... là-dedans, c'est le vieux côté rhodésien
ben
d'une
oui.
partie. Après ça, c'est pas tous les anglophones, évidemment, mais c'est une partie minoritaire, mais très arrogante chez les anglophones, des anglo-radicaux, les angry phones, qui ont conservé une mentalité de rhodésien et qui disent « never under French rule ». Et puis je dis ben, « désolé, ça marchera pas comme ça ».
Écoute, ils veulent faire de Montréal la 11e province. C'est ça qu'ils disent, la 11e province du pays. Non seulement Montréal se rattacherait au reste du Canada, mais serait une cité-État, comme tu dis, une province. Et là, on cite l'exemple en Suisse. En Suisse, il y a le canton, on sait qu'il y a différents cantons en Suisse. Il y a le canton de Berne, qui est un canton germanophone. Mm-hmm. On parle allemand. Mm-hmm. Et là, la minorité francophone du canton de Berne s'est séparée du canton de Berne pour se joindre au canton du Jura, où là, c'est en majorité francophone. Donc, ils ont dit, ben, il y a des précédents, on va essayer de voir la faisabilité de ça.
Ben, il y a deux choses. Hein. Premièrement, ils ont même déjà un nom, je me rappelle, il y a quelques années, le nom qu'ils voulaient donner à cette cité-État, la 11e province, c'était Maisonneuve. Donc, la province de Maisonneuve, pardon. Donc ça, c'est un imaginaire qui se développe. Ensuite, non, mais je vais leur en donner des précédents, parce qu'il y en a eu. On appelle ça l'Irlande du Nord. On dit dans les faits, c'est une accession à l'indépendance. Et là, la puissance coloniale d'origine cherche à garder par la force un morceau. Parce que un tel mouvement ne pourrait aboutir qu'avec l'appui du régime canadien qui dirait « on vous laisse partir, mais à condition de garder le gros morceau de Montréal ». Ça me rappelle Diane Francis dans les années post-référendaires qui avait Howard Galganov. Mais Diane Francis disait « OK, l'indépendance, puis on va vous délaisser un Québec saucissonné, un Québec troué, un Québec gruyérisé. Donc, dès qu'un comté, votre nom, il se rattache au Canada. » Donc, faut comprendre que dans le dispositif, on se moque beaucoup de PSPP en ce moment, à tort, parce qu'il a dit que le régime canadien cherchait à nous effacer. Ce qui me semble rigoureusement exact, j'en ai parlé tantôt dans mon édito. Ben, je m'excuse, mais ça, l'agitation de ces franges extrêmes de la communauté anglophone qui avait été excitée à l'époque par Stéphane Dion dans son plan B, ben, je m'excuse, mais ça participe à cette logique qui consiste à déstabiliser la démocratie québécoise.
Mais là, Montréal, il y a l'ouest de Montréal qui est anglophone, mais il y a l'est de Montréal qui est francophone. Donc, est-ce que advenant une partition de Montréal, est-ce qu'il y aura une partition des quartiers francophones? Tu sais, à un moment donné, on pousse ça jusqu'où?
C'est là qu'on voit, tu sais, on accuse toujours les nationalistes québécois de nationalisme ethnique, ce qui est une cochonnerie sans nom. La logique ethnique en ce moment, ça consiste à dire qu'on va partitionner le territoire en fonction de l'origine ethnique des gens qui le composent. Mais c'est fou. Le Québec est une nation qui dispose d'un ensemble institutionnel qui s'appelle la province de Québec, qui a déjà fait deux référendums, qui a accordé le droit de vote à tout le monde, qui a maximisé le droit de vote d'ailleurs. Tu sais, on a fait tout ça. Et là, on nous dit finalement qu'on va découper le territoire sur le mode ethno-linguistique après un éventuel référendum. Donc là, c'est... Mais il faut comprendre, les vrais nationalistes démocratiques là-dedans, c'est les Québécois francophones, les Québécois qui disent, un instant, on est tous dans le même bateau, on comprend que les anglophones votent non. On n'est pas câble, on comprend que les anglophones votent non. Puis les francophones votent majoritairement oui. Puis on essaie de faire en sorte qu'une petite partie des allophones votent oui quand même, même si la pression continentale et canadienne les pousse à voter non. Bon, tout le monde le sait, ça. Mais là, si on nous dit, finalement, on accepte de jouer seulement à condition qu'on gagne, parce que si on gagne plus, on joue plus, mais là, je m'excuse, mais qu'est-ce que ça nous dit sur la psychologie démocratique des uns et des autres? Il y a quelque chose là-dedans, mais ça ne me surprend pas, parce que l'histoire, je sais que je suis vraiment radoteux là-dessus, mais l'histoire nous enseigne des choses, et l'Empire britannique ne se retire jamais sans chercher à déstabiliser l'endroit dont il se retire. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui chez nous.
Et on joue sur les mots, parce qu'on dit que les Québécois sont contre, ils sont contre Montréal, parce que Montréal est multiculturel, et les Québécois n'aiment pas les sociétés multiculturelles. Non, les Québécois aiment les sociétés multiculturelles. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le multiculturalisme, qui est pas la même chose. Le multiculturalisme est une politique. C'est pour aménager, justement, la façon dont les sociétés vivent ensemble. Ça n'a rien à voir, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ah, t'es contre le multiculturalisme, donc t'es contre les sociétés multiculturelles. Pas la même chose du tout, là.
Non, mais attends. Pour moi, Montréal, c'est une métropole cosmopolite. Hein? Une métropole cosmopolite. Donc, moi, je veux pas que Montréal ait une psychologie paroissiale, une psychologie de village. Je pense que c'est normal qu'il y ait des influences étrangères qui traversent Montréal. Je pense que c'est bien. C'est le point de contact à bien des égards entre le Québec et le monde. Bon. Mais je veux quand même que Montréal soit québécoise. Tout comme je veux que Rome, qui est une ville cosmopolite, soit romaine et italienne. Tout comme je veux que Paris soit française. Oui. Tout comme je veux faire la liste. Mais pour ces gens-là, quand Montréal dit qu'elle est québécoise et cosmopolite tout à la fois, et c'est pas contradictoire, là, on nous dit, aïe, 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 en fait, vous êtes raciste si vous êtes critique du multiculturalisme. On dit, non, un cosmopolitisme légitime, on embrasse, mais le multiculturalisme, c'est la négation de la culture du pays d'accueil. Donc oui, on joue sur les mots là-dedans, puis on nous explique en fait qu'on est de trop. C'est-à-dire la vocation pour ces gens-là, des francophones à Montréal, ça devrait être une minorité qui accepte son rôle de minorité, qui n'en demande pas plus, qui demande qu'on tolère discrètement ses droits dans une métropole qui serait de langue commune anglaise. Et là, moi, je mets en garde, cela dit, les francophones de Montréal. Parce que il y a la terre, je me rappelle, par exemple, puis il ne le dit plus aujourd'hui, mais je le cite simplement par souci d'honnêteté, Guy Lepage avait dit, dans un article de l'actualité qui remonte à la fin des années 2000 environ, autour de peut-être 2007, il dit « Je me sens plus proche aujourd'hui, moi, d'un gars, d'une personne de Barcelone, de New York, de Londres, que de Rimouski, de Blainville ou tout ça. » Puis moi, j'avais lu ça, puis je le dis en tout respect parce que j'ai de l'estime pour Guy Lepage. Mais je me dis, là-dessus, il s'était trompé. Parce que qu'est-ce qui a fait la fortune de Guy Lepage dans la vie? C'est pas Westmount. C'est pas non plus Séoul, puis c'est pas non plus Barcelone. C'est Blainville, c'est Rimouski, c'est Amos, c'est l'Abitibi, c'est le Chicoutimi. C'est tous ces gens dont il se sentait loin, qui lui ont permis de créer son œuvre. Tu sais, l'humour de RBO que j'adore, là, c'est un humour qui est pas vraiment compris. On s'entend genre à Boston, là, puis qui est pas vraiment compris non plus à Singapour. Donc, à un moment donné, les francophones de Montréal, leur droit à Montréal s'appuie sur le fait qu'ils sont connectés au reste du Québec. Et puis je comprends qu'on préfère vivre à Montréal qu'à Québec ou à Chicoutimi, Saguenay, comme on dit aujourd'hui. Je le comprends. Moi, je préfère vivre à Montréal, tout comme je préfère vivre dans la métropole. C'est notre personnalité. Je précise que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis il y a bien des gens qui me disent, mais bon Dieu, que t'aimes ça pas avoir d'espace, puis être perdu dans un espace. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui sont faits pour la banlieue, pour la métropole, pour la région. Puis je pense que ça correspond à des personnalités, des tempéraments différents, et je respecte tout ça pour vrai. Mais ce qui est certain, c'est que les francophones de Montréal, leur pouvoir, leur droit repose sur leur affiliation aux Québécois francophones hors Montréal, et c'est tous ensemble qu'on a capacité de faire du français la langue commune. Donc, j'invite les Québécois francophones de Montréal qui ont tendance quelquefois à snobber ce qui se passe à l'extérieur des ponts. Je les invite très sérieusement à penser à leur propre intérêt et à ne pas snobber ceux qui rendent possible la défense de leurs droits.
Est-ce que tu as lu le texte de Philippe Mercure dans la presse? Alors, il dit, à entendre certains politiciens ces jours-ci, on a l'impression que la nation québécoise se trouve à un cheveu de la disparition. Il dit que François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon font peur au monde en disant « Ouh, c'est la fin de la nation québécoise », etc. Puis il dit « On va se calmer le pompon ». Bref, ils sont totalement paranoïaques. Qu'est-ce que tu en penses?
J'ai lu cette mauvaise chronique qui me semblait paraître dans un mauvais journal étudiant d'un mauvais cégep. Bon. Puis c'est comme, j'ai l'impression, j'ai lu ça, c'est comme le gars qui a gagné le concours de « Je serai chroniqueur d'un jour », puis il fait un papier, puis là, il réussit à le publier dans la grosse presse. Bon, bravo, là. Mais c'est d'une médiocrité épouvantable. J'ai lu ça. Alors, je le dis parce que on a un côté quelquefois exagérément gentil au Québec. Puis moi, j'ai pas envie d'être gentil quand je lis un texte comme celui-là, qui, dans les faits, qu'est-ce qu'il dit? Il cherche à extrême-droitiser l'inquiétude identitaire légitime des Québécois. Il nous dit, le Québec doit demeurer le Québec. Là, il réfère à cette phrase-là qui est de Legault. Et là, il se tourne, dit, oui, ça vient de Macron, mais ça vient aussi de Zemmour et Jean-Marie Le Pen. Donc là, puisque cette phrase a déjà été prononcée par quelqu'un d'autre dans un autre contexte, elle est donc le signe d'une filiation coupable. Alors, vu, puisque ce monsieur manque, parce que je crois qu'il a fait 2-3 recherches Google, là, on va le rassurer. Le général de Gaulle, cette phrase-là, on trouve d'origine, c'est le général de Gaulle qui parle de fécamp, port de pêche et appelé à le rester. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette idée qu'une ville, un pays, un peuple a une identité dans la permanence, qu'il y a des choses qui changent, évidemment, mais il y a une identité fondamentale dans un pays. Il faut que le Québec demeure le Québec. C'est quoi la phrase inverse exactement? Je demanderais aux chroniqueurs de la presse, il faut que le Québec ne demeure pas le Québec? Il faut que le Québec... Alors, on va nous dire, oui, mais le Québec, ça change. Bien sûr que ça change, mais ça change avec des traits de permanence. Par exemple, la place centrale du français dans notre vie collective. Et c'est parce qu'on a ces espèces de points fixes dans notre identité ou ces balises fermes qu'on est capable ensuite d'évoluer harmonieusement comme société. Mais la tentation était trop forte à la presse d'extrême-droitiser les nationalistes québécois. À un moment donné, c'est parce qu'on a eu la conscience de notre fragilité comme peuple depuis la conquête, puis après ça, depuis l'acte d'union, puis après ça, depuis la Confédération, qu'on était capable de construire une stratégie de défense collective pour assurer la survie du français en Amérique, puis d'assurer notre propre persévérance collective. On l'a réussi. Bon, mais là, si on nous explique pas de soucis, puis si vous avez un souci, Jean-Marie Le Pen. Si vous avez un souci, extrême droite. Là, on se dit ça, on se dit, mais c'est d'une... C'est navrant. Ouais. C'est navrant. Je suis fasciné de voir qu'un truc comme ça soit publié. Il y a moyen d'être contre le nationaliste québécois sans donner l'impression d'avoir coulé son premier cours de Sciences Po au Cégep.
Mais ce qu'il dit, c'est qu'ils sont alarmistes, que la situation n'est pas si pire que ça. Écoute, c'est pas ce que René Lévesque disait. Le Canada, c'est pas le goulag. C'est pas ce qu'il disait.
Ben, ça tombe bien, personne n'a dit que c'était le goulag. Hein, on peut parfaitement, dans le Canada, disparaître comme peuple sans goulag. Hein, d'ailleurs, faut pas s'inquiéter, c'est pas le goulag, mais non plus, c'est pas le paradis. C'est pas le goulag, mais c'est une machine anglicisée. C'est pas le goulag, mais c'est le multiculturalisme officiel et radical et extrême. C'est pas le goulag, mais c'est la guerre menée contre la laïcité québécoise. C'est pas le goulag, mais c'est les seuils d'immigration qui nous condamnent à la noyade démographique. Donc, c'est pas la noyade, c'est une démocratie comme ci, comme ça, pas aussi grande et pas aussi noble qu'elle le prétend. C'est un pays confisqué par une élite qui est presque une clique. C'est un pays qui a centralisé les pouvoirs dans la technostructure d'Ottawa.